Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Donc si je devais donner un titre aujourd'hui, je l'appellerais « Sur la terre comme au ciel », avec un point d'interrogation, vraiment. Peut-être certains d'entre vous savez, c'est un extrait de la prière du Notre Père, « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». C'est ce que beaucoup de gens prient. Donc, on va réfléchir un petit peu là-dessus. Si la Bible dit que nous devons prier pour que des choses se passent ici-bas, comme au ciel, que la volonté de Dieu s'accomplisse, combien la plupart du temps on en est loin. On en est loin. Malgré l'ignorance des choses religieuses, parce que nous sommes maintenant dans une France largement post-chrétienne, les gens ne sont plus religieux, beaucoup sont athées, beaucoup sont ignorants. À un moment donné, il y avait encore un peu... Un résidu de religion connaissait encore le pater noster. On disait un pater, la formule du latin, hein, le pater, vous me ferez trois pater et quatre, je vous salue Marie. Et donc, c'est quand même intéressant de réaliser combien l'être humain peut s'éloigner de la simplicité de sa relation avec Dieu telle que son créateur l'avait voulu dès le départ. On complique. On multiplie toutes sortes de choses religieuses qui n'ont aucun impact dans la vie quotidienne. Comme par exemple, c'est ce fameux passage de Matthieu 6, 5, Jésus donne des instructions. Il dit, lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Je veux une fois de plus expliquer pour ceux qui ne sauraient pas d'où vient le mot hypocrite. Ça vient du grec Hippocrates, c'était les acteurs de théâtre qui avaient des grands masques, et dans le masque, il y avait même une énorme bouche qui leur servait de porte-voix, de sorte que les auditeurs puissent entendre leur voix. Mais ils étaient cachés derrière un masque. Et donc Jésus dit, quand on prie, n'essaye pas de faire comme ceux qui portent un masque. Et ça a du sens, puisque Dieu, qui nous a créés, nous connaît parfaitement. Donc, c'est pas la peine d'essayer de faire semblant avec lui. Et là, il dit, ils aiment prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. Mais je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Entre parenthèses, ici dans ma version, c'est ouvertement. C'est-à-dire qu'on verra les actions de prière que tu fais en secret, on les verra ouvertement, publiquement. On en verra les effets. On verra la différence de ce passage que nous aimons bien de Malachie. On verra la différence, Dieu va faire la différence, entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Entre celui qui médite la parole de Dieu, qui la lit, qui l'étudie, qui prie, qui a vraiment une vie spirituelle, et celui qui n'en a pas. Heureusement qu'il y a une différence, sinon ça servirait à quoi? Mais c'est une réalité. Donc il a dit, ne soyez pas comme les hypocrites, mais toi, quand tu pries, voilà ce que tu vas faire. Tu vas faire ça, pourquoi? Pourquoi se cacher? Pourquoi fermer la porte? Parce que justement, des fois, il y a trop d'interférences. Pense à... Est-ce que ma prière est bien formulée? Est-ce que la grammaire est en ordre? Est-ce que j'ai utilisé les mots qu'il faut, etc.? Mais avec Dieu, c'est pas compliqué. Il regarde directement au cœur. Et la prière, il faut prier dans l'esprit. Dans l'esprit, ça veut dire du plus profond de nous-mêmes. Ce que tu veux vraiment. Et en priant, ne multiplie pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent, en effet, qu'à force de parole, ils seront exaucés. On se rend compte que dans certaines civilisations et certaines religions, vous avez par exemple du côté de l'Inde, vous avez dans l'Himalaya, vous aviez ces moulins de prière qui tournent et des gens qui font en sorte qu'il y ait comme des prières qui montent constamment vers leur divinité, quelle qu'elle soit. Mais Jésus a dit ici, ne multipliez pas des paroles. C'est pas ça qui compte. De multiplier des paroles. Et paradoxalement, ceux qui veulent être les porteurs du message de Jésus, le christianisme dans son ensemble, est tombé, on peut dire, dans le panneau, en répétant des prières, comme le Notre Père, qui à la base est vraiment une parole inspirée de Dieu, est encore utile pour nous aujourd'hui, mais pas en la récitant. Voilà, nous allons maintenant ensemble réciter le Notre Père. Rien qu'en disant cette phrase, on a déjà tout faux. On peut dire aux enfants, bon, tu as appris une récitation à l'école, tu viens nous la réciter, et puis ça fait plaisir, oh le petit, il a appris sa récitation. Mais là, ça n'a rien à voir du tout, puisqu'on n'est pas là pour réciter, on est là pour parler à Dieu réellement. Donc, ne multipliez pas les vaines paroles. Ils s'imaginent des vaines imaginations. En effet, qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ils imaginent. Beaucoup de choses se passent, et nous le savons, mais il faut qu'on se le répète encore, beaucoup de choses se passent dans notre tête, la façon dont on imagine des choses. Dans 2 Corinthiens 10, au verset 3 et suivant, l'apôtre Paul nous explique quelle est la bataille qui se passe dans notre tête. Il dit, si nous marchons dans la chair, ça veut dire que nous sommes dans ce corps, dans cette nature humaine, et dit, nous ne combattons pas selon la chair, mais le combat ne se passe pas au niveau humain. Il dit, parce que les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Nous renversons des forteresses, nous renversons des raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc toute pensée doit être captive à l'obéissance de Christ. Ça veut dire, quand vous avez des pensées, voyons ou voyez si elle va dans le sens de Christ. Christ c'est quoi? Ou c'est qui? C'est à la fois Jésus, loin, celui qui a été loin, celui qui a été envoyé, mais c'est aussi tout ce qui va avec. Ça veut dire que l'onction, cette capacité que Dieu nous donne par le Saint-Esprit, ne se manifeste que quand les pensées sont captives à l'obéissance de Christ. Il n'y a pas d'onction pour donner de la force à vos idées humaines. C'est pour ça qu'il dit ici, il y a des gens qui s'imaginent qu'à force de parole, ils seront exaucés. Non, ils disent non, c'est pas ça. Mais les pensées captives à l'obéissance de Christ, c'est une pensée qui va aller dans le sens de ce que Dieu peut approuver. Vous voyez, dans Marc 16 se termine, et Dieu, le Seigneur était avec eux, et il confirmait sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. Ça, c'est quelque chose dans le sens que Dieu peut appuyer, peut approuver et peut manifester sa puissance. Et d'autres choses, nous, on peut peut-être des fois se fatiguer à faire toutes sortes de choses, mais qui sont inutiles. Ici, il nous les a dit. Verset 8, ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Alors, toujours la même question qui peut revenir, pourquoi faut-il quand même le demander? Parce que Dieu a créé des choses sur la terre et que c'est un Dieu juste et il y a des gens qui doivent être jugés, il y a des puissances célestes qui doivent être jugées et donc il ne fait pas une différence avec ses enfants. Il n'agit pas de façon spontanée, il déclenche sa volonté quand il veut pour nous garder, protéger totalement et bénir notre vie. Non, il veut que vraiment interférer avec nous et avec notre propre volonté. Toute notre âme doit être engagée. Jésus a dit, voilà, tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de... Voilà, toute ta force, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, tout doit y être engagé. Sinon, on n'aurait pas besoin, ce serait des pantins. Dieu dirige notre vie et il fait que tout se passe bien. Alors on se dirait, mais pourquoi ça va pour lui et pas pour elle ou vice-versa? C'est parce qu'il y a notre volonté qui doit être engagée. Donc il connaît nos besoins, mais tout de suite il dit, voici comment vous devez prier pour que vous puissiez maintenant vous engager dans cette voie et permettre à Dieu d'agir. Notre Père Céleste, j'ai ma version 21, hein, que la sainteté de ton nom soit respectée. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. On est vraiment d'accord avec ça, on y croit et on veut que ça s'accomplisse. C'est pour ça que je ne dis pas à la légère amen chaque fois que quelqu'un dit une phrase. Des fois, on a des comportements religieux. Voilà, tout le monde va aller en enfer. Amen. Ben non, bah amen du tout. On ne peut pas approuver par le mot amen. C'est pour ça que même le mot amen, qui est un mot puissant, qui termine notre déclaration de foi, ne doit pas être pris à la légère. Mais c'est vraiment à propos qu'il faut qu'on l'emploie. Donc, on reviendra sur la volonté de Dieu, mais juste quelques mots encore. Donne-nous notre pain quotidien. Pour ceux qui ont ce qu'il leur faut pour tous les jours, soyez reconnaissants. Développez constamment la reconnaissance. Parce qu'un jour ou l'autre, il y a quelque chose qui va aller de travers. Ce n'est pas une prophétie que je suis en train de donner, c'est sûr. Quelque chose va aller de travers et à ce moment-là, faites attention à ce qui se passe en vous. Si vous n'avez pas développé la reconnaissance, vous risquez à ce moment-là de commencer à vous plaindre, d'être aigri, de toutes sortes, et vous allez dans la voie opposée à celle qui permet à Dieu de vous replacer sur les rails et de vous restaurer. Alors que si vous avez entretenu la reconnaissance, vous êtes toujours en marche vers la bénédiction. C'est valable donc, je disais, pour ceux qui reçoivent leur pain quotidien, et le pain quotidien, c'est pas juste un morceau de pain sec, de l'eau pour ne pas mourir de faim, c'est beaucoup de choses. Nous, on estime ici qu'on a besoin que nos maisons soient chauffées. Quand on a du moins 10, moins 15 en hiver, on a besoin de chauffage. Donc le pain quotidien, c'est aussi ça. Quand j'ai besoin d'une voiture pour aller à mon travail, eh bien, j'ai besoin d'une voiture. Donc ça fait partie de mon pain quotidien. Et l'essence qui est dedans, et l'assurance qui va avec, et plein de choses comme ça. Donc le pain quotidien, c'est tout ça. En même temps, celui qui n'a pas, il peut aussi choisir. Ah, lui, il a plus, donc il doit me donner. Il y a des gens qui pensent que tout leur est dû. Au nom de quoi? Non. Ce que nous avons, nous reconnaissons que c'est une grâce de Dieu, une faveur qu'il nous fait. Donc, ceux qui n'ont pas, qui doivent prendre le même chemin. Le chemin de la reconnaissance. Déjà voir tout ce qu'ils ont, et puis s'attendre à recevoir de Dieu pour la suite. Le pain quotidien que eux aussi, ils aient selon leurs besoins. Des fois, c'est pas que ça manque. Des fois, c'est simplement que la voie entre celui qui a le besoin et celui qui a la solution, il y a une liaison qui n'est pas établie. Comme le lien avec Dieu dans la prière. Le lien peut être rompu, mais on peut le restaurer. En tout cas, ça fait une dimension. Pardonne-nous nos offenses. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes qui vous ont offensé, mais normalement, cette prière est destinée comme le pain quotidien. Le pardon aux offenses doit être quotidien. C'est pas « Ah oui, maintenant je me rappelle qu'il y a 15 ans, quelqu'un m'a fait quelque chose. » Non, ça devrait être réglé depuis longtemps. Mais c'est les petites choses de la vie quotidienne, les offenses aussi. C'est pas seulement une offense mortelle, un truc énorme. C'est tout ce qui nous embête dans le quotidien. Toutes les incivilités, comme on appelle, hein, des gens qui klaxonnent, qui vous font une queue de poisson, qui a des comportements dans les magasins et partout, et des gens qui sont impatients, qui veulent passer devant les autres, et toutes sortes de choses. Donc tout ça, de pardonner, libérer. Ne laissez rien venir en vous. Je ne vous dis pas d'avoir une attitude un peu condescendante, c'est-à-dire, oh, le pauvre, etc., je lui pardonne. C'est pas ça. Mais de dire, cette personne est peut-être dans une prison. Certains sont dans une prison mentale ou autre. Pierre disait à Simon, le magicien, vous savez, il voulait payer pour avoir le pouvoir de transmettre le baptême dans le Saint-Esprit à d'autres personnes. Parce qu'il voyait que c'était quelque chose qui était impressionnant, spirituellement puissant. Donc il dit, je veux payer, je vous donne de l'argent et vous me donnez aussi ce don. Et Pierre a dit, que ton argent périsse avec toi. Je vois que tu es dans les liens de l'iniquité. Il n'a pas dit, oui Simon, écoute, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, il a été, on pourrait dire qu'il a été dur avec lui, mais parce qu'il était complètement prisonnier, Pierre dit, c'est les liens de l'iniquité. Donc des gens sont prisonniers d'un certain nombre de choses. Ça peut être des pensées, comme je disais, des pensées que les autres me doivent ceci et cela, et tout le monde doit être à mon service et me faire plein de choses. Et c'est le problème aussi dans toutes nos relations sociales. Les gens qui veulent contraindre les autres, donnez-moi ce que vous avez. Peut-être l'autre, il a travaillé pour l'avoir. Et toi, tu n'as rien fait et tu voudrais bénéficier des mêmes choses. Ainsi, dans notre pays, on a fait des lois sociales pour que des gens qui soient dans le besoin et dans la nécessité soient aidés. Mais ce n'est pas fait pour que certains profitent du travail des autres. La Bible dit que tu ne dois pas refuser de donner à celui qui y a droit. D'accord ? Celui qui y a droit. Mais la Bible dit en même temps que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Et c'est comme ça que dans la parole de Dieu, tout est équilibré. On retrouve les réponses pour les situations, mais des fois, quand on cherche juste un morceau de phrase ou un demi-verset, alors là, on peut être complètement à côté. Donc, autant pour le pain quotidien, c'est Dieu est ma source avant tout. Comme disait un de mes amis dans le ministère, il a dit, et Dieu n'a pas perdu la recette de la manne. C'est-à-dire, même si vous êtes dans une situation qui semble la crise, pas possible, pas de travail, etc. Dieu peut, c'est notre message. Dieu peut le faire. Il a nourri Élie avec des corbeaux qui lui ont apporté du pain et de la viande au bord d'un torrent. Donc, dans une situation de crise, Dieu peut trouver une solution. Toujours, toujours. Donc, pardonnons, ne retenons rien. Montrons à Dieu que nous sommes ses enfants de la même nature, de la même nature que lui, parce qu'on a compris quelque chose au pardon. Il nous a tout pardonné et nous, on ne retient rien non plus. On ne veut pas empoisonner notre âme, on ne veut pas qu'il y ait plein de choses dans notre cœur. Il nous dit en hébreu que ces choses poussent des racines, après ça prend une ampleur qu'au début c'était rien du tout, et après on se rappelle même plus comment ça a commencé, mais on est empêtré. Il nous est dit dans Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous. Il n'est pas dit avec quelques-uns qui sont aimables et qui sont gentils avec vous. La sanctification, ça veut dire chercher à être différent. Sanctification, c'est ça que ça veut dire surtout. Différent pour avoir une autre attitude, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Des fois, on dit, on chante des chants, on aimerait voir Jésus, etc. On peut le voir dans la réalité quotidienne, à travers de la manifestation d'une façon d'être différent dans son comportement, de ne pas réagir violemment aux agressions. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Ça veut dire aussi donner des conseils autour de nous, dire, attention, ne te laisse pas aigrir maintenant par cette situation, ne te laisse pas avoir... Passe au-dessus, pardonne et oublie, et tourne la page. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. À ce que aucune racine d'amertume, voilà pour les amateurs de jardinage, vous savez quel combat on mène. Ce qu'on voudrait qu'il pousse, on a du mal à le faire pousser. Mais ce qui ne doit pas pousser, ça pousse tout seul. Et on a toujours de nouveau des ronces et des choses qui normalement devaient être disparues de notre terrain depuis longtemps, qui reviennent. Et c'est une illustration de ce que nous vivons. Il y a de l'ivraie, de la mauvaise graine qui a été semée par un ennemi, et donc il nous est dit qu'il n'y ait aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Plusieurs ne soient infectés. Et on voit que quand on laisse se développer certaines choses, il parle là d'Ésaü, qui a laissé se développer certaines choses dans sa vie, et plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. Donc il y a un moment, on a négligé de développer au niveau de notre âme, de bonnes choses, notre relation avec Dieu, on a laissé plein de choses envahir notre cœur, À un moment donné, on se rend compte. Ah voilà, ça y est. Maintenant, je réalise. C'est quand même la bénédiction de Dieu qui est importante dans ma vie. Parce qu'il nous a dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alors que d'autres choses, sur le moment, ça semble un sujet de joie, mais après, c'est un chagrin. Comme ceux qui s'enivrent, sur le moment, c'est la fête. On est tous joyeux et on est gays et on s'amuse. Et le lendemain, c'est le chagrin, c'est le mal de tête. Et on se dit, ça y est, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, il nous est dit qu'il a voulu obtenir la bénédiction, mais il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Et là encore, l'approche qu'on a par rapport à Dieu dans nos prières, c'est pas une approche sentimentale. Il nous est dit, Dieu prend plaisir à celui qui vient avec à lui dans la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est pour ça des gens qui, « Oh Seigneur, aie pitié de nous, et on est larmoyant, et on pleurnichard, etc. » Et ça ne marche pas, parce que c'est pas comme ça. On ne peut pas tromper Dieu au niveau des sentiments. Il ne va pas dire, « Non, t'as pas mérité, mais finalement, allez, donne quand même. » Non, c'est pas comme ça. Donc, ne nous expose pas à la tentation d'être conscient aussi, il y a des choses qui sont trop fortes pour nous. On a besoin de l'aide de Dieu. On ne peut pas s'en sortir seul. Parce que là aussi, un passage de l'Écriture dit que c'est l'orgueil qui précède la chute. Parce qu'on est, fier, on est sûr de soi. Moi, ça ne m'arrivera pas comme Pierre qui avait dit, même si tous les autres te trahissent, moi, jamais je ne le ferai. Tu peux compter sur moi. Et l'instant d'après, il a échoué et je veux dire c'est exposé dans le monde entier, tout le monde en parle encore des milliers d'années après, on veut dire, de la chute de Pierre. Donc avec tout ça, pensons un instant que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Pensons que qu'est-ce qu'il y a après la vie sur terre, parce que ça nous parle directement de ça. Si on est quelqu'un qui prie, si on est quelqu'un qui a conscience de la présence de Dieu dans l'univers, alors ça veut dire que ce temps sur terre, c'est un temps court, finalement. Un temps relativement court. Dès qu'on commence à parler de l'éternité, moi je sais pas ce que ça vous fait, mais au bout d'un moment, on commence à avoir un peu le tournis. Un temps qui est long, on peut imaginer quelqu'un qui vit 100 ans, vous voyez, on a l'impression que c'est une longue vie. Mais après, et après, et après, et après, c'est très très long, d'accord, l'éternité. Mais c'est surtout long quand on pense à la réalité qu'il n'y a pas seulement un ciel pour nous accueillir, mais aussi un enfer pour accueillir dans une prison spirituelle pour toute l'éternité des gens qui n'ont pas voulu de Dieu. Et c'est quelque chose que je trouve toujours étonnant, et on a besoin de réagir par rapport à ça, c'est que des gens disent « Toute ma vie, moi je ne veux rien savoir de ces choses de Dieu, là, ça ne m'intéresse pas du tout. » Mais quand ils sont morts, tout le monde est là pour dire « Ah ben voilà, nous prions pour que notre frère, notre sœur, Dieu l'accueille, etc. » C'est pas que je lui souhaite d'être en enfer, mais je ne vois pas, il y a bien sûr le brigand sur la croix, la personne qui à la dernière seconde n'a pas encore la bonne décision pour Jésus, et c'est tant mieux. Mais c'est aussi une réalité. On ne peut pas parler de notre vie en tant qu'être humain sans parler aussi d'une destinée éternelle, soit auprès de Dieu, soit loin de lui. Il y a une réalité. Et là, une petite chose que je voudrais vous lire, justement, par rapport à notre âme, ça s'appelle « Et ton âme ?» Alors, je vais vous le lire. Un petit dépliant que j'avais depuis des années, j'aimais bien les réflexions. « Ne t'inquiète pas de ton âme, dit le matérialiste, car les peines éternelles n'existent pas. » Ne t'inquiète pas de ton âme, dit l'athée, car tu n'as pas d'âme. Ne t'inquiète pas de ton âme, dit le spirit, car il n'y aura après la mort ni jugement ni résurrection. Ne t'inquiète pas de ton âme, dit le sentimentaliste, car Dieu qui est amour ne pourrait jamais envoyer les âmes en enfer. Ne t'inquiète pas pour ton âme, dit l'homme religieux, car il te suffit de ne pas tuer ni voler, d'agir aussi bien que possible, et Dieu passera l'éponge sur tes péchés. Ne t'inquiète pas de ton âme, dit enfin le libre penseur, car il n'existe ni enfer pour l'impie, ni ciel pour le croyant. Quand on est mort, tout est fini. Tout est fini. Mais alors, si tout est fini quand on est mort, ça veut dire que notre vie humaine n'a pas plus de valeur qu'une mouche qui serait sur le mur et que je serais en train d'écraser. Et la vie est terminée. Alors pourquoi on fait tant de cas de la vie humaine? Pourquoi on essaye de sauver les vies humaines? Pourquoi on essaye de guérir les humains? Ils ont qu'à mourir et puis il y en aura d'autres, comme les mouches. Pourquoi on fait tellement d'efforts? Pourquoi on veut qu'il y ait une justice sur Terre? Pourquoi on a fait des règles pour la loi de nos sociétés? Il n'y a qu'à appliquer la loi de la jungle, plus fort s'impose et voilà. Mais pourquoi on fait tout ça? Parce qu'au fond de nous, on sait bien que l'être humain est plus qu'un animal, et surtout plus qu'une mouche. D'accord? Non, mais c'est là qu'il y a une contradiction dans la réalité telle qu'elle est en chacun d'entre nous, telle que Dieu l'a imprimée en nous, ou à un moment dans la Bible, il nous a dit, nous sommes de sa race. Ça ne veut pas dire que nous sommes divins, mais ça veut dire que nous avons reçu quelque chose de la part du Créateur. Et donc, intéressant de voir toutes ces réflexions sur notre âme, où beaucoup, justement, ont évacué cette question de l'âme. Très bien, mais que dit la parole de Dieu, qui est la vérité? La parole de Dieu dit, que servirait-il un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? C'est dans Matthieu 16, 26. Tu as une âme, mon frère, ma sœur, et cette âme, c'est toi-même. Car cette vie, avec toutes les possibilités qu'elle recèle, et dont le corps n'est que la maison, un jour tu quitteras cette maison. Et toi, son habitant, tu paraîtras en jugement devant le Dieu souverain. Alors là, c'est aussi la chose que les gens n'aiment pas, qu'on parle de jugement. Vous vous rappelez, dans les Actes des Apôtres, il nous a dit que certains aimaient entendre Paul et donc le faisaient appeler, ils aimaient bien ses discours. Mais quand il a commencé à parler de jugement, il a dit, oh, ben, on t'entendra là-dessus une autre fois. Hein, c'était très bien ton discours, mais ne nous parle pas tellement de jugement, ça nous déplaît ça. Ton âme, c'est donc ta personnalité responsable. C'est ta volonté qui peut dire oui ou non. C'est ton cœur qui peut s'ouvrir ou se fermer, qui peut aimer ou haïr. Ton âme, ce sont tes désirs qui peuvent se tourner vers Dieu ou vers le monde. Ton âme, c'est toi-même. Ce n'est pas ton père, ta mère, ta sœur, ton frère, ton mari ou ta femme. C'est toi. Quand tu fais le récit d'un départ, tu parles de quelqu'un d'autre. Mais un jour, c'est toi qui mourras. Toi qui seras enseveli, toi qui descendras dans la tombe quant à ton corps, tandis que ton âme paraîtra devant Dieu. Car après la mort suit le jugement. Donc ce sont des choses très réelles dont nous parlons aujourd'hui. Une relation avec notre Créateur. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on prie? Cette âme, et c'est là qu'on parle de l'éternité, elle peut être perdue. Pour aller rejoindre le diable et ses anges, qu'on appelle aussi les démons, les mauvais esprits, hein, rejoindre le diable et ses anges, et pas comme l'enfer dans les dessins du Moyen-Âge. Hein. Vous êtes dans une grande marmite et le diable et ses anges s'amusent à tourner et faire le feu sous la marmite. C'est pas comme ça que ça se passe. Il nous est dit dans un étang de feu et de soufre, une souffrance permanente. C'est là que je disais qu'on a un peu le tournis de réaliser que quelqu'un puisse être dans cet état pour le reste de l'éternité, loin de Dieu. Donc, elle peut être perdue, mais aussi par la grâce de Dieu et l'acceptation de son merveilleux salut, elle peut être sauvée et entrer au ciel. Alors, en face de l'éternité, que servirait-il un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Perdre son âme, c'est l'ignorer, ne pas s'occuper de son âme. C'est la reléguer à l'arrière-plan, c'est la négliger dans ses besoins les plus profonds. C'est la nourrir des choses de la terre, de plaisir, roman, passion. Perdre son âme, c'est en faire la proie de l'ennemi qui la guette et du monde qui la séduit. Perdre son âme, c'est se perdre soi-même, c'est perdre Dieu. C'est perdre par une affreuse négligence le salut que Christ offre à tout pécheur et qu'il a acquis sur la croix au prix d'indicibles souffrances. Perdre ton âme, c'est perdre la paix, la joie, le bonheur, la lumière, l'éternité, le ciel, c'est tout perdre. Car toutes les bénédictions du temps et de l'éternité sont renfermées dans un seul Jésus-Christ. si notre âme n'a pas été sauvée par lui, si elle n'a pas été lavée par son sang, si elle n'a pas été régénérée par son Saint-Esprit, elle est perdue. Perdre son âme, c'est gagner l'enfer. Le remords, le jugement, la honte, les ténèbres, c'est choisir les tourments éternels, la compagnie des damnés. Perdre son âme, c'est la catastrophe suprême. Rien n'est pire parce que rien ne peut la réparer. Que servirait-il un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Quand on pense aussi qu'il y a des gens qui des fois ils disent qu'ils vivent l'enfer ici. Peut-être ils ont une vie très difficile. Peut-être il y a plein de choses qui vont de travers. Peut-être qu'ils ont connu énormément de souffrances d'injustices et de gens qui leur ont fait du mal. Mais au travers de cette vie, la plupart connaissent quand même quelques moments de joie, de plaisir ou d'autres choses au milieu de ça. Mais perdre son âme pour l'éternité, ça veut dire qu'il n'y aura plus rien du tout. Il n'y a même plus les potes du bistrot où on passe de bons moments. Non, c'est dans l'enfer, on peut dire, c'est chacun pour soi, seul pour l'éternité. Le monde passe, se flétrit, se fane. Toutes les gloires du monde, toutes les richesses du monde, tous les plaisirs du monde, l'homme les laissera. Tandis que son âme, il la gardera. Et en face de l'éternité, elle apparaîtra, seule, apeurée, malade, misérable, pour recevoir la sentence finale de réprobation divine. Et pourquoi nous voulons penser à l'éternité? Je compte 1000 ans, 100 000 ans, 100 millions d'années, autant de fois de millions d'années qu'il y a de brins d'herbe dans la prairie ou de grains de sable au bord des mers, de gouttes d'eau dans l'océan, et je n'ai pas encore commencé à entamer l'éternité. Un jour viendra où le soleil sera éteint, le monde se sera consumé, la race humaine sera terminée, les morts ont été jugés, ce sera l'éternité. Elle durera toujours et ne finira jamais. Si pour toi c'est l'éternité dans le ciel, ce sera toujours le bonheur, toujours la paix, toujours la joie, toujours la félicité, toujours dans la contemplation la présence de Dieu et de Jésus-Christ. Plus jamais de larmes, de nuits d'angoisse, de souffrance, de péché, de mort. Mais si c'était pour toi l'éternité de l'enfer, alors effroyable malheur. Toujours le péché qui réclame, toujours les ténèbres qui oppressent, toujours le ver de remords qui ronge, toujours les chaînes qui enserrent, toujours les démons qui tourmentent. Et les larmes ne serviront à rien, et les cris ne serviront à rien, et les regrets ne serviront à rien. La mort, elle ne sera plus là. Le repos, il s'enfuira. Le sommeil, il ne viendra pas. Plus d'amis, de parents, de société pour oublier, plus de cinéma pour se distraire, plus d'alcool pour s'étourdir. Toujours la souffrance, jamais un rayon de soleil, jamais une goutte d'eau pour se rafraîchir, jamais une douce parole pour calmer son angoisse. Alors il y a une éternité, beaucoup n'y pensent pas. Ils sont au bord de cette éternité et ils ne s'y préparent pas. Beaucoup ressemblent à l'homme de la parabole qui, en faisant le compte de ses biens, s'écriait « Mon âme, tu as beaucoup de biens en abondance. Mange, bois, réjouis-toi. » Tandis que du ciel, du maître de la vie et de la mort, une voix venait disant « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera demandée. Et ce que tu as mis en réserve, pour qui sera-t-il » Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous par rapport à cette réflexion sur notre position, où on est. Nous, on a cette opportunité extraordinaire, cette occasion quotidienne d'être constamment en relation avec notre Dieu et Créateur. Et que ce soit un message pour quelqu'un qui en ait besoin, qui écoutera et qui se pose des questions sur son âme, sur le sens de sa vie. Et nous, on peut réellement communiquer avec lui. Bien sûr, on n'a pas toujours toutes les réponses qu'on voudrait à nos prières, n'est-ce pas vrai? On a encore quelques échecs, où de temps en temps on ne comprend pas, on ne va pas assez vite, ou la délivrance n'est pas là qu'on attendait. Mais au moins, on a une assurance. On sait qu'il nous écoute. La parole de Dieu dit, nous avons cette assurance, nous savons qu'il nous écoute. Et que si nous prions selon sa volonté, il veut nous exaucer. Peut-on communiquer avec lui réellement? Oui. Mais nous ne pouvons pas accepter le raisonnement de certains. Ils ne prient jamais et après ils reprochent à Dieu de rien faire. C'est un peu trop fort, hein? Et Dieu ne s'excuse pas de ça. Il ne s'excuse pas. On ne peut pas ne pas vouloir le connaître et ignorer après ce qu'il veut. Ça ne m'intéresse pas ce que tu dis, ce que tu fais, Dieu. Mais maintenant que j'ai besoin, finalement, oui, tu pourrais quand même me donner ceci, cela. Mais ça ne marche pas, tout simplement. Dans Jean 17, Jésus priait, disait, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Donc ce qu'il veut, quand on ne peut pas juste dire que ta volonté soit faite et tout de suite passer à autre chose. Quand on prie que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est-à-dire, je prends du temps pour connaître sa volonté, pour un sujet qui m'intéresse. Ce n'est pas de la théologie très éloignée de notre quotidien. C'est simplement, si j'ai besoin d'une direction de Dieu, si je veux lui demander quelque chose concernant ma vie, ma santé, mon argent, ma carrière, mes études ou d'autres choses, là, il faut que j'apprenne à connaître comment lui il voit les choses me concernant. Et il me donnera des conseils. Donc, que ta volonté soit faite, apprendre comment il agit, lui. Comment le prier. Comment avoir la foi pour prier, cette confiance en lui. Et mon dernier point, c'est de Matthieu 18. Il nous est dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. C'est, tout à l'heure, on avait dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et maintenant c'est l'inverse. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Ça nous explique encore une fois cette liaison entre le ciel et la terre. Il y a des choses que nous disons ici-bas qui ont un impact en haut, et en haut, ça de nouveau agit sur ici-bas. Il y a une communication constante. C'est ce que Jésus disait dans Jean 2 quand il a dit « Je voyais désormais les cieux ouverts ». Et il voyait les anges monter et descendre. Comme le songe de l'échelle de Jacob, où il a vu une communication entre le ciel et la terre. Et ça, c'était quelque chose qui était choquant pour les gens, d'une manière générale. Dieu est très loin, il est distant. Qui peut lui parler? Peut-être quelques rares privilégiés. Et qu'il y ait une communication, c'est choquant. Mais ici, la Bible nous dit, cette parole de Jésus, il dit, « Je vois les cieux ouverts ». C'est essentiel pour qu'on réalise que les cieux sont ouverts pour entendre nos paroles. Il nous est dit dans le livre de Malachie, au chapitre 3 et au verset 16, « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent les uns aux autres. L'Éternel fut attentif et il écouta. » D'accord ? Il est attentif. Le prophète Élie s'était moqué des adorateurs du faux dieu Baal et Astarté et disait mais peut-être votre dieu il est en voyage ou bien il s'est endormi, criez plus fort, peut-être qu'il vous entendra, parce que lui était sûr de la relation avec Dieu, donc il pouvait se le permettre. Et donc il nous a dit, l'Éternel fut attentif, il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel, qui honorent son nom. Et à une promesse, et ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux, ça veut dire que Dieu se soucie de ce que vous traversez, compassion, souffrir avec, comme un homme a compassion de son fils qui le sert, une relation père-fils, et vous verrez à nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Donc, servez Dieu, vous avez tout à y gagner. C'est quelque chose de merveilleux de pouvoir être en communion avec Dieu, de pouvoir avoir accès à ce qu'il est et tout ce qu'il met en nous. Dans la Bible, il est dit dans 1 Jean 4, « Tel il est, tel nous sommes dans le monde. » C'est ce qu'il aimerait de nous. Il aimerait que quand des gens vous voient, ils aient une image de Dieu. « Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. » Donc on le reflète. J'avais déjà cité « Nous sommes de sa race » et dans Éphésiens, il dit « Il nous a créés à son image. » Créé pour de bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Et si vous le voulez, on peut dire Amen. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.